C'est vendredi 9 février 2018 et c'est Hélène Denis qui vous accompagne. J'espère que vous êtes en forme en cette belle journée d'hiver. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous avez mis une plante dans le studio qui prend tout mon oxygène, alors c'est pour ça que j'ai bafoué sur le nom février. Elle s'appelle Huguette, paraît-il.
Ben oui, on cherchait la marque. Non, on cherchait le type de plante et voilà, je l'ai appelée Huguette parce que j'ai aucune idée c'est quoi.
Oui, parce
que... Ça ressemble à un baobab.
Un baobab miniature?
Oui, mais en train de pousser.
Oui, avec... Tu sais, là, ce qu'on vendait à un moment donné, là, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, mais il y avait des cheveux qui poussaient.
Des trolls.
Des trolls?
Oui.
OK, mais ça ressemble un peu à ça. Un baobab troll nommé Huguette. Alors,
c'est un beau nom de film.
C'est vendredi, oui, on rigole un peu.
Oui, voilà.
Puis là, je vous laisse la parole.
Vous êtes bien aimable. Le 9 février, c'est la journée mondiale de la Corse. Organisée depuis 2009, la Journée mondiale de la Corse est une initiative d'une association, Corsica Diaspora, et cette mission permet d'assurer la promotion de la Corse et de soutenir son développement et les initiatives ainsi que les projets dans et à l'extérieur de l'île. Dans l'histoire, le 9 février, je vais commencer par 1718, des colons français débarquent en Louisiane. 9 février 1870, Louis Riel établit un gouvernement métis au Manitoba. 1879, venant de Montréal, un premier train en service régulier arrive à Québec. À Québec, en 1883, l'ajout des armes de la province au devis de la porte centrale du Parlement, sous l'autorité d'un arrêté en conseil, rend officielle la devise « Je me souviens ». L'opéra Falstaff de Giuseppe Verdi est chanté en première au Teatro alla Scala de Milan en 1893. 1922, à Québec, 400 femmes manifestent pour le droit de voter. 1950, dans sa traque des gauchistes, le sénateur Joseph McCarthy dénonce les communistes qui se seraient incrustés au département d'État. 1954, le gouvernement Duplessis dépose le projet de loi créant l'impôt sur le revenu au Québec. La Jamaïque obtient l'indépendance en 1962. Toujours un 9 février, cette fois en 1964, la première des Beatles aux États-Unis au Ed Sullivan Show. On va peut-être en faire jour aujourd'hui. 1966, la Ligue nationale de hockey annonce que 6 nouvelles équipes joueront en octobre 1967. Ottawa expulse 11 fonctionnaires soviétiques qui avaient tenté d'infiltrer la GRC en 1978. Toujours en 9 février en 2000, à Ottawa, la Cour fédérale valide le croisement des fichiers de l'assurance emploi avec ceux des douanes pour lutter contre la fraude. En 2003, la Québécoise Mélanie Turgeon décroche à Saint-Moritz la médaille d'or de la descente épreuve reine des championnats du monde de ski alpin. Et en 2005, Walmart décide de fermer son magasin de Jonquière. Pour ce qui est des naissances, le dessinateur français Francisque Poulbeau, qui est né en 1879, un 9 février. Carole King, la chanteuse et musicienne américaine, est née en 1949. Et Mia Farrow est aussi née un 9 février, par contre, elle, en 1945. Et pour ce qui est des décès, j'en ai noté deux. Claude Ryan, qui est décédé en 2004. On se souvient qu'il était l'ancien directeur du Devoir et ancien chef du Parti libéral du Québec, qui était né, lui, en 1925. Et... le romancier russe Fyodor Dostoïevski, qui était né, lui, en 1821, est décédé en 1881, un 9 février. Voilà, Hélène.
Un grand merci, Mathieu.
Ça fait plaisir.
Thank you. À la une de la presse, exclusif érosion des berges. On se fait manger notre terrain, c'est une citation, entre Montréal et Sorel, les impacts des changements climatiques et du transport maritime sur le fleuve atteindraient des proportions inégalées. À qui profite le chaos à l'UPAC? L'analyse de Denis Lessard. 20 ans après sa médaille d'or, Rebagliati, toujours mêlé aux potes. Pose chic vêtements cherche deuxième vie. Des tonnes de vêtements se retrouvent au dépotoir. Piste de solution. Pyeongchang 2018, ski acrobatique. On voit Michael Kingsbury à l'œuvre. 5 bosseurs canadiens passent en finale. Éric Trottier signe un article, une édition spéciale tous les jours à midi dans la presse plus. Les Jeux olympiques d'hiver s'ouvrent aujourd'hui à Pyeongchang, en Corée. Et une fois de plus, il sera question au cours des 2 prochaines semaines de politique, d'argent et de dopage. Il y aura aussi des performances athlétiques époustouflantes ou carrément émouvantes. Dans tous les cas, la presse vous offrira une couverture aussi riche que diversifiée, mais avec une nouveauté importante par rapport aux Jeux précédents. Une édition spéciale quotidienne livrée tous les jours à midi dans la presse plus. Notre équipe en Corée du Sud, Yves Boisvert, Philippe Quentin, Simon Drouin, Sophie Allard et Bernard Brault. L'érosion des berges a pris des proportions alarmantes dans certains secteurs qui longent le fleuve Saint-Laurent au point où un regroupement d'élus du couloir Sorel-Montréal réclame des mesures urgentes du gouvernement fédéral pour contrecarrer ce phénomène, a appris la presse. On se fait manger notre terrain tous les ans et on n'a pu rien faire, a dénoncé Roger Guérin, qui possède une maison au bord du fleuve à Verchères depuis 3 décennies. J'ai perdu 1000 pieds carrés, 1000 mètres carrés, M, c'est mètres. Alors, j'ai perdu 1000 mètres carrés depuis 5 ans, soit la moitié de mon terrain, c'est urgent. Le phénomène de l'érosion des berges, qui n'est pas nouveau, s'est aggravé de façon considérable ces dernières années, fait valoir le député bloquiste Xavier Barcelou-Duval, élu dans cette région. Il a envoyé la semaine dernière une lettre au ministre fédéral des Transports pour demander une action concrète dans ce dossier. Dans la dernière année, j'ai été interpellé par plusieurs citoyens qui sont venus me voir en me disant « J'ai mon mur de protection qui tombe, j'ai ma maison qui va tomber dans le fleuve », a souligné le député bloquiste. Les gens sont inquiets et me demandent ce que je peux faire pour les aider. Sa missive est co-signée par les maires de Lavaltrie, Sorel, Lanoraie, Contrecoeur, Varennes et Verchères, ainsi que par plusieurs députés du secteur. Ils attribuent entre autres au fort volume de trafic maritime, à la vitesse des navires et à l'ouverture de la voie maritime en hiver, la dégradation accélérée des berges. Service aux élèves en difficulté, une nouvelle de Marie-Ève Moras. La semaine des enseignantes et des enseignants amorcée lundi se veut une occasion de valoriser le travail des professeurs. Pour un groupe d'enseignantes en adaptation scolaire de Montréal qui dénonce le manque criant de ressources pour aider les élèves, le seul fait d'être écouté serait déjà un pas en avant. « Entendez-vous ce qu'on vous dit? » demande Maya Boubrit d'un ton légèrement excédé. On a besoin de services d'orthophonie, d'orthopédagogue, de psychologue, de soutien de toutes sortes. L'enseignante est attablée dans un restaurant de Côte-des-Neiges avec ses collègues de l'école Iona. Même si elles ont la force de l'équipe, ces titulaires de classe consacrées à des élèves qui ont des troubles de langage et des difficultés d'apprentissage se disent à bout de souffle. On se sent seul face aux enfants et à leurs difficultés souvent complexes. on sent qu'on ne peut pas aller à 100% de la capacité de l'enfant, dit Julie Saint-Onge, enseignante avec 15 années d'expérience. Le contexte dans lequel l'enseignement se fait est de plus en plus lourd, disent ses professeurs. La présidente de la Commission scolaire de Montréal soutient qu'au contraire, le nombre d'élèves bénéficiant des plans d'intervention est stable, tandis que les embauches de spécialistes sont en hausse. Nous avons embauché cette année 40 orthophonistes de plus. Elles ne sont pas toutes à temps plein, mais elles ont été assignées en priorité à des classes en besoins spécialisés, dit Catherine Harel-Bourdon, la présidente de la Commission scolaire de Montréal. Madame Harel-Bourdon précise toutefois que les départs en congé de maternité ou en congé de maladie peuvent être plus difficiles à pallier. Le Montréalais Hicham Saadi, accusé d'avoir menacé le printemps dernier de faire exploser des engins artisanaux à l'Université Concordia pour combattre les musulmans, a été renvoyé à l'Institut psychiatrique Philippe Pinel en plein milieu de son procès hier afin qu'on évalue sa santé mentale et sa responsabilité criminelle. Au troisième jour du procès pour incitation à craindre des activités terroristes, la défense a demandé à la juge d'ordonner l'évaluation psychiatrique de son client. La poursuite venait de clore sa preuve. Les psychiatres auront au moins 30 jours pour déterminer si Hicham Saadi souffrait de troubles mentaux au moment de commettre ses crimes. Le cas échéant, il pourrait être déclaré non criminellement responsable. Cette demande est survenue à la suite d'une décision de la juge défavorable à la défense. Maître Brown a tenté de convaincre le tribunal en vain que Hicham Saadi avait fait des déclarations contre sa volonté pendant l'interrogatoire policier qui a suivi son arrestation le 1er mars 2017. Luc Ferrandez dit regretter d'avoir qualifié d'amateurisme la promesse électorale de Projet Montréal de geler les taxes, offrant son soutien indéfectible à Valérie Plante. Le maire du Plateau était aux côtés de la mairesse de Montréal hier pour annoncer une consultation publique sur l'avenir du parc Jean-Drapeau. Les deux sont arrivés bras dessus, bras dessous, en signe d'unité. Questionné par les journalistes sur sa sortie au micro de Paul Arcan la veille, Luc Ferrandez a dit avoir passé la journée à regretter son choix de mots. « Je n'ai pas chassé ce mot de mon vocabulaire, mais je dois l'appliquer à moi-même. » Luc Ferrandez dit avoir passé la journée à fredonner la chanson « Le chant du baume de Desjardins ».« J'aurais dû, ben du don dû ». Farmer ma grand gueule, a complété Valérie Plante, qui a décidé de rire de l'incident de la veille. Luc n'aura pas son étoile dans son cahier, mais il en avait accumulé pas mal, alors ça compense, a-t-elle ajouté. C'est une erreur que je ne commettrai plus, a conclu Luc Ferrandez. Montréal ne sera plus la sourde oreille aux plaintes de Saint-Lambert à propos du bruit provenant du parc Jean-Drapeau. L'administration Plante s'engage à respecter la loi sur la qualité de l'environnement qui limite la pollution sonore. Le promoteur Evenco ne dispose pas d'une clause d'exclusivité sur l'amphithéâtre du parc Jean-Drapeau, a indiqué Luc Ferrandez, et la femme d'affaires Danielle Henkel quitte la présidence de la société du parc Jean-Drapeau au moment où l'administration Plante impose un virage majeur au développement du site.
L'autre fois, je parle avec mon bonhomme, il me dit « Astor, t'es un grand bop, comment s'entends-tu, sac loquant? » J'ai dit pourquoi je suis bien ici, je me sens chez nous, puis je peux pas penser du bazou. Deux, trois. J'aurais dû ben du don du fatter ma grande gueule. Ça fait que là, que c'est que je fais planter là sur le coin de la rue, tout nu comme un pou. J'ai dit je m'en faire mon homme, m'en pogner une job, m'en faire le tour, m'en commencer par la poule roube. Qui c'est Girzou, dit loup-garou, qui me dit d'en face, t'en rappelles-tu que tu me dois 100 piastres? Ben laisse-moi le temps de l'oublier, en attendant je viens de prendre ma guine, t'auras-tu quoi pour la payer? Deux, trois, j'aurais dû ben du don, tu former ma grande gueule. J'suis borré de partout, j'suis cassé comme un clos, je suis un voyou, voyez-vous. Un peu froissé dans mon honneur, moi incompris total. A ben fallu que je me pile sur le cœur. J'ai pris ma décision finale. Pas de tabonnage, pas de tétage. Je m'en voudrais au bien-être social.
Une belle grande femme qui sent le pouche-pouche, puis qui pousse-pousse-pousse, un crayon jaune me demande pourquoi que je travaille pas. Rien qu'à y penser, madame, je viens tanner, y a quelque chose en moi qui me dit que je suis pas fait pour ça. Point de vue culture, madame, un certain nombre de points. Premièrement, selon le petit Robert, le dictionnaire étymologique, le mot chômage vient du latin comare, qui veut dire se reposer pendant qu'il fait chaud. Deuxièmement, selon le petit Robert, le mot travail vient du latin tripalium, qui veut dire torture. Je ne peux rien y faire. Troisièmement, c'est pas une job que je veux, c'est de l'argent.
Deux, trois!
J'arrête-tu bien du don, tu formes ma grande gueule. Je suis bonito partout, je suis cassé comme un clos. Je suis un voyou, voyez-vous. Sans bazou, sans amis, sans abri, puis l'hiver qui sévit. Le temps passe tranquillement. Me voilà rendu vagabond dans cette situation. C'est l'amour ou bien la prison. Le juge m'a dit, vous n'avez rien commis, je vous condamne conséquemment à 100 piastres ou l'hiver en dedans. Merci beaucoup la seigneurie, en voilà un qui m'a compris. Je pense que je vais prendre l'argent. J'arrête du pain du don, tu fermes ma grande gueule. Je suis bourré de partout, je suis cassé comme un clos. Je suis un voyou, voyez-vous. Je suis bourré de partout, je suis cassé comme un clos. Je suis un voyou, voyez-vous. Excusez-moi.
En effet, excusez-moi, c'était Richard Desjardins, la chanson du bum. Évidemment, c'était une chanson, pardon, je vais ralentir mon rythme, pris de son album Live au Club Soda.
Et non, live à la mairie. Ou au parc Jean-Drapeau, parce que ça s'est passé hier en conférence de presse où Luc Ferrandez a raconté cette histoire. Il le fredonnait ce... cette belle chanson. Hein. Tu la connais par cœur, Mathieu. Vous la connaissez par cœur, c'est vrai, je vous vois. Alors, allons-y donc avec la une du Devoir de ce vendredi 9 février. La Corée du Nord mise sur la présence féminine aux Jeux olympiques pour marquer des points sur le plan diplomatique. Ci-dessus, les « cheerleaders », entre guillemets, elles sont 229 habillées à l'identique à leur arrivée à Pyeongchang. Deux femmes que l'on voit donc arborant un beau manteau en drap, comme dirait ma grand-mère, couleur bordeaux, avec fourrure au col et aux manches. Alors, en lien avec les Olympiques, Jeux olympiques, offensive de charme, la Corée du Nord utilise les femmes pour servir ses intérêts géopolitiques. C'est un article de Jean-François Nadeau. UPAC Coiteux maintient le cap malgré tout. REM, Bombardier rate le train. La perte du contrat de la Caisse de dépôt crée de l'inquiétude pour l'avenir de l'usine de la Pocatière. Infirmière, une solution originale à imiter. Environnement, nouvelle agence fédérale. Zeitgeist, l'amour au sein de la famille. C'est toute la famille de Marcia Pilote que l'on voit en photo. Et économie, correction boursière, Wall Street a de nouveau plongé jeudi, le Dow Jones perdant 4,15%. Le Monde, déluge de feu, les avions du régime syrien ont pilonné la Ghouta orientale, tuant 220 civils en 4 jours. Culture, sortir de l'ombre, publication de manifestes d'artistes autochtones pour assurer leur rayonnement. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, n'a nullement l'intention de modifier son projet de loi donnant plus de pouvoir à l'Unité permanente anticorruption, UPAC, pas plus qu'il ne se formalise des échanges amicaux réguliers entre le grand patron de police, Martin Prud'homme, et le député libéral Guy Ouellet. Pourtant, ces échanges, qui sont détaillés dans le mandat de perquisition ayant permis la fouille du domicile de Guy Ouellet le jour de son arrestation, soulèvent des questions sérieuses au sujet de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire, estime Martine Valois, professeure de droit à l'Université de Montréal. Martine Valois, qui est également membre du comité de suivi des recommandations de la Commission Charbonneau, est l'avocate émérite dont l'expertise a auparavant été citée par le ministre Coiteux et le premier ministre Philippe Couillard pour défendre le mode de nomination du commissaire de l'UPAC. Jeudi, elle s'est montrée très critique de la proximité entre Guy Ouellet et Martin Prud'homme, un puissant chef policier impliqué dans des enquêtes visant le Parti libéral. Selon elle, M. Ouellet interprète trop largement les mandats qui lui sont confiés. La fonction d'un député n'est pas de se transformer en enquêteur et de prendre sur lui d'aller faire sa propre enquête sur les sujets qui l'intéressent, a-t-elle soutenu. Même les policiers ne font pas d'enquête sur ce qu'ils veulent. Le travail passé de Guy Ouellet à la Commission des institutions ne peut pas justifier d'aller recueillir des informations dans le plus grand secret, a-t-elle dit. Isabelle Porter, qui signe un article « Première entente pour réduire les heures supplémentaires ». Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les infirmières et leurs patrons ont conclu mercredi une entente pour réduire le recours aux heures supplémentaires obligatoires. Un accord qui ne serait pas lié à l'ouverture affichée plus tôt cette semaine par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. C'est un gain majeur, a déclaré en conférence de presse la présidente de la section locale de la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, Julie Bouchard. C'est de l'oxygène pur qu'on vient donner à nos professionnels en soins. Du côté patronal, on n'en est pas moins ravis. On devrait avoir moins d'absences pour maladie, un personnel plus disponible, donc moins de lourdeur, a déclaré la PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, Martine Couture. Les changements climatiques obligent Aéroports de Montréal à investir des sommes majeures pour assurer la sécurité des vols. L'organisme a annoncé jeudi avoir investi plus de 6 millions en prévision de la saison hivernale pour acheter de nouveaux équipements motorisés de déneigement et en remplacer certains arrivés en fin de vie. Aéroports de Montréal rappelle qu'il tombe en moyenne 220 cm de neige chaque hiver sur l'aéroport Montréal-Trudeau. Ce qui ajoute aux difficultés, toutefois, est le nombre croissant d'épisodes de verglas. L'illumination du pont Jacques-Cartier par Moment Factory et ses partenaires figure parmi les nommés au Gala de l'innovation interactive 2018 de l'événement South by Southwest aux États-Unis. Moment Factory est aussi finaliste au Gala qui aura lieu en mars à Austin, au Texas, pour son spectacle Continuum, un parcours immersif d'un demi-kilomètre dans l'une des futures stations du train léger sur rail d'Ottawa. L'illumination du pont Jacques-Cartier se retrouve dans la catégorie Villes intelligentes, Smart Cities, tandis que le spectacle Continuum est finaliste dans la catégorie Design interactif, Responsive ou Responsive Design. Les soins dentaires trop onéreux pour un Québécois sur quatre. Au Québec, plus d'un adulte sur quatre se prive de soins dentaires en raison de leurs coûts élevés, qui, ces dernières années, ont augmenté nettement plus rapidement que l'inflation. Résultat, près de 60 % des Québécois de 45 ans et plus portent des prothèses dentaires et plus de 20 % ne possèdent plus aucune dent naturelle. Selon une étude menée par l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, Les ménages québécois ont déboursé en moyenne 529 $ en soins bucco-dentaires en 2016, ce qui représente une hausse de 19 % depuis 2010. Juste pour terminer, les primes exigées par les régimes privés d'assurance dentaire ont connu, quant à elles, une majoration de 50 % depuis 2010. L'auteur de l'étude, Philippe Hurteau, précise qu'entre 2010 et 2016, la croissance du coût des soins dentaires a dépassé l'inflation de presque 11 points de pourcentage et celle du coût des primes d'assurance l'a surpassée de 58 points de pourcentage. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture, le tribunal arbitral du sport a rejeté l'appel des 47 Russes qui souhaitaient participer aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Parmi ces sportifs écartés, la star russe du patinage de vitesse courte piste, Victor Hahn, et le biathlète Anton Chipulin, alors que le TAS, le tribunal arbitral du sport, avait partiellement annulé la sanction pour d'autres. Cet appel faisait suite à la suspension à vie des athlètes russes après la publication d'un rapport de l'Agence mondiale antidopage qui mettait en évidence un système de dopage institutionnalisé en Russie. Il faut dire que la cérémonie d'ouverture a eu lieu.
Comme promis, les Beatles, Drive My Car.
À la une du Journal de Montréal, le journal à Pyeongchang, 16 pages. C'est parti! La cérémonie d'ouverture donne le coup d'envoi ce matin aux Jeux olympiques, mais déjà hier, les Québécois Justine Dufour-Lapointe, qui est sur la une du journal, et Michael Kingsbury se sont qualifiés pour la ronde suivante en bosse. Réseau Express Métropolitain, ultime croque en jambe de la caisse à Bombardier, la chronique de Michel Girard. L'appui de plantes au REM déçoit des opposants au train de la caisse continue d'affirmer que ce projet n'est pas bon pour les Montréalais. La mairesse de Montréal n'a pas caché son enthousiasme hier matin lors de la conférence de presse annonçant les choix de consortium qui mettront sur les rails le réseau express métropolitain, le train léger de la caisse. Le ciel est bleu, on ramasse la neige depuis 2 jours et on parle de mobilité. C'est le bonheur, a lancé Mme Plante qui s'est exprimée aux côtés du premier ministre Philippe Couillard, du ministre des Transports fédéral Marc Garneau et du patron de la Caisse de dépôt, Michael Sebia. Même si la Caisse a présenté des changements mineurs au projet initial, la mairesse a parlé de gains substantiels pour la population. Elle s'est notamment félicitée de la promesse de la Caisse de partager l'utilisation du tunnel du Mont-Royal avec d'autres moyens de transport. Un discours bien différent de celui que tenait Mme Plante dans une lettre qu'elle avait adressée en janvier 2017 au premier ministre Justin Trudeau. Tout investissement massif dans le transport collectif montréalais devrait améliorer la mobilité des résidents de quartiers enclavés et présentement mal desservis, tant dans l'est que dans l'ouest de l'île. Dans son état actuel, le REM ne répond pas de façon satisfaisante à cet objectif, disait la future candidate de Projet Montréal. Pour Jean Fortier, qui s'était désisté lors de la dernière campagne en faveur de Valérie Plante, ce changement de discours montre la faiblesse de la politique. Je ne lui en veux pas, mais je suis déçu. M. Fortier estime également que le tracé proposé par la Caisse continue de favoriser l'étalement urbain. La chronique de José Legault intitulée « L'indécence libérale ». Philippe Couillard s'invente une nouvelle image. À 8 mois des élections, le premier ministre se découvre un intérêt soudain pour la lutte à la pauvreté. Malheureusement, après 3 ans d'austérité, ce lifting radical est un miroir aux alouettes, du moins pour les plus vulnérables d'entre nous. Dans ma chronique de mardi, je vous parlais d'une décision révoltante du gouvernement rapportée par Le Devoir. Sans broncher, il prive des milliers de personnes handicapées intellectuelles, adultes, vivant en ressources intermédiaires, RI, du maigre 73 $ mensuels d'augmentation de leur chèque d'aide sociale. Une hausse modeste qui devait pourtant être accordée à tous les prestataires inaptes au travail. Or, la RAMQ hausse en même temps de 73 $ par mois la contribution de ces mêmes personnes handicapées à la RI où elles résident. Ce qui, sur leur minuscule revenu mensuel de 1 035 $, ne leur laisse toujours qu'un infime 215 $ pour leurs dépenses personnelles. Rappelons qu'en plus du 820 $ par mois que la personne handicapée paye pour vivre en ressources intermédiaires, les ressources intermédiaires, donc RI, reçoivent aussi de généreuses subventions de l'État. Arracher ce 73 $ par mois aux personnes handicapées vivant en RI, c'est du banditisme politique. Ils essaient, les ministres, eux, reclus dans leur bulle médicalo-comptable, de se contenter de 215 $ par mois pour leurs dépenses personnelles. En posant un geste aussi répugnant et discriminatoire, le gouvernement Couillard trahit sa véritable nature. Il dit en fait à ces personnes handicapées qu'il se fout de leur sort, comme quoi le lancement de sa belle politique de lutte à la pauvreté est à géométrie scandaleusement variable. Remarquez que son indifférence aussi totale qu'incompréhensible envers les adultes déficients intellectuels et leurs familles ne date pas d'hier. Ce dernier geste vient le confirmer une fois de plus. Les libéraux ont d'ailleurs refusé leur consentement au dépôt d'une motion de la CAQ leur demandant de redonner ce 73 $ par mois aux personnes handicapées qui en sont privées sans la moindre raison logique. Questionné par Le Devoir, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, disait réfléchir à une solution possible. Du même coup, il se dédisait en lançant cette perle de mépris. Ces gens-là sont logés et nourris. Traduction, selon lui, il serait donc normal de leur arracher cet humble 73 $ de plus par mois. Eh bien, ces gens-là, comme le ministre les appelle de haut, Ce sont ces mêmes personnes handicapées qu'il privera ainsi de 876 $ cette année, soit presque l'équivalent d'un mois de revenus d'aide sociale. Ces gens-là vont donc devoir continuer à vivre avec 215 $ par mois pour couvrir tous leurs besoins personnels. Les vêtements ne sont pourtant pas moins chers pour les adultes déficients intellectuels. Ni les produits d'hygiène, ni le cinéma, ni le coiffeur, ni les souliers, ni les bottes, etc. Pour une seule semaine de camp, c'est aussi un minimum de 500 $ de frais. Sur quelle planète éloignée nos gouvernements vivent-ils pour ne rien comprendre à la réalité troublante des plus vulnérables d'entre nous? Sept des 10 étrangers arrêtés il y a 2 semaines au Cambodge pour danse pornographique après avoir participé à une fête en sous-vêtements à Siem Reap, base arrière des touristes souhaitant visiter les temples d'Angkor, ont été libérés sous caution, annoncé hier le tribunal chargé de cette affaire. 5 Britanniques, 2 Canadiens, 1 Norvégien, 1 Irlandais et un Néo-Zélandais âgé de 19 à 31 ans avait été interpellé dans une villa de cette ville du Nord qui compte de nombreux hôtels, bars et discothèques. Incarcérés depuis, les jeunes gens risquent jusqu'à 1 an de prison, mais aucune date n'a encore été fixée pour le procès. S'ils ont reconnu avoir pris part à une fête et le port de vêtements sexy, ils rejettent les accusations de pornographie. Et la chronique de Denise Bombardier intitulée « L'école, arène de boxe ». Le Devoir a rendu public bien des statistiques qui terrassent nos sensibilités. Les élèves québécois agressent leurs enseignants à un rythme inquiétant. En 10 ans, l'on dénote une augmentation de 50 % des attaques contre les profs. Cela débute à la maternelle. Le Devoir cite le cas d'une enseignante qui a subi une 40aine de fois les assauts d'un enfant de maternelle. On parle ici de gifles, de coups de poing au ventre, de coups de pied et de morsures au sein. Peut-on imaginer l'effet de ces scènes sur les petits camarades de 4 ou 5 ans? Les directeurs d'école tentent de sous-estimer le phénomène ou de l'ignorer. Quelle réputation pour l'école? Quelle direction souhaite publiciser un pareil débordement? Comme toujours, on fait comme si de rien n'était, ce qui signifie que la direction pense d'abord à sa réputation qu'elle ne veut pas ternir. Cela ressemble au silence de toute institution lorsque le scandale risque d'être mis à jour. Qu'on pense à l'attitude de l'Église face aux prêtres accusés de pédophilie, au monde du show business qui veut protéger ses vedettes, au lieu de travail où le patronat ferme les yeux devant les harceleurs de tout genre. Comment expliquer la rage, la violence, la brutalité des enfants d'aujourd'hui envers les adultes, sinon en pointant du doigt tous les adultes qui, au nom d'une tolérance qui n'est qu'une irresponsabilité de leur part, laisse les enfants agir comme des bêtes. Les syndicats d'enseignants mettent cette situation dramatique sur le compte des compressions budgétaires. Mais cette dure réalité économique ne peut pas expliquer à elle seule le phénomène des petits monstres qui attaquent leurs maîtresses, des ados terrifiants qui menacent de mort leurs enseignants et des gamins de 10 ans qui envoient ces haches, point de suspension, ceux qui tentent de les éduquer. Pour dénoncer des actes violents, un protocole existe auquel toute école doit se soumettre par la loi. Mais l'applique-t-on suffisamment? Encore une fois, nous sommes face à la pensée magique et à une interprétation lamentable de la responsabilité personnelle. Tout mettre sur le dos de l'État est une façon de nier la réalité si humaine. L'idée vertueuse, dégoulinante de bonté, nous entraîne à instaurer des classes où se retrouvent des enfants aux multiples perturbations psychologiques et des enfants qui se comportent normalement. Or, ces jeunes pyromanes, malgré eux, font exploser l'ordre, la discipline et le respect dans ce lieu sacré qui devrait être la salle de classe et par extension l'école. Avons-nous perdu à ce point nos valeurs pour transformer nos établissements scolaires en arènes de boxe? Et que penser de ce fatalisme social de directeurs d'école affirmant des profs victimes des exactions, des professeurs. La violence, ça fait partie de ton job, comme témoigne l'article du Devoir. Lorsqu'une société n'est plus capable d'attirer les meilleurs citoyens comme enseignants, qu'elle n'arrive plus à protéger ses enfants et ses profs contre des enfants déchaînés, criant au secours, cette société est elle-même en état de crise.
Je t'aime, le sort en est jeté, et j'en ferai le thème de ma réalité. Je donnerai mon corps à des sciences nouvelles, je déjouerai la mort, je viendrai quand tu m'appelles. Je t'aime, je t'aime. Et déjà cet amour érigé en système enflamme les discours. Et en bas dans la rue, c'est la révolution. Tombent les statues et que résonne ton prénom.
Je t'aime, je t'aime. Une chanson de Philippe B que l'on retrouve sur son album La Grande Nuit Vidéo.
Conception plus allégée pour le Château Laurier, c'est dans le droit sous la plume de Jacques Normand Sauvé, après avoir essuyé en 2016 et 2017 les salves de certains politiciens et membres du grand public qui n'avaient guère apprécié les deux premiers plans d'agrandissement du Château Laurier qu'ils trouvaient envahissants. Et lourdeaux, les dirigeants de l'Arco Investment Limited ont présenté jeudi aux conseillers municipaux d'Ottawa une nouvelle mouture plus allégée des travaux d'agrandissement du mythique hôtel. Plutôt que l'édification de deux ailes attenantes de 11 et 12 étages qui auraient caché en partie les toits et pignons du château, on n'assistera finalement qu'à la construction d'un seul nouveau pavillon de 8 étages, abritant 171 chambres plutôt que les 218 suites préalablement prévues. La nouvelle annexe inclura également un garage souterrain de 370 espaces de stationnement sur 5 niveaux. Cette annexe proposera d'ailleurs des salles de réunion au rez-de-chaussée, au lieu de chambre et un magnifique hall vitré reliera l'ancien édifice à la nouvelle structure. Le record Guinness confirmé pour une Gatinoise s'est confirmé. Une Gatinoise a établi un record mondial pour le plus court intervalle entre l'accouchement de jumeaux. La maman des petites Emmanuel et Élodie, Amanda Doris, a reçu cette semaine la confirmation des autorités du livre des records Guinness. Madame Doris a donné naissance aux jumelles le 6 avril 2017 à l'hôpital de Gatineau. Emmanuel et Élodie sont nés à un intervalle de 22,976 secondes. Les filles étaient venues au monde prématurément durant la 35e semaine de grossesse. Madame Doris a dû procéder à plusieurs étapes avant que soit homologué le record, dont obtenir et faire parvenir toute la paperasse médicale aux autorités du livre des records Guinness. Elle devrait recevoir son certificat prochainement. J'ai hâte de le recevoir pour pouvoir l'encadrer et le placer dans la chambre des petites. C'est officiel que c'est là qu'il s'en va. Dès que ce sera imprimé, j'irai acheter des livres, mais je devrais attendre puisque celui de 2018 est déjà imprimé. J'imagine que je devrais attendre l'édition de 2019. Mais mon nom est déjà sur le site web comme détentrice du record, a partagé Mme Doris lors d'une entrevue au Droit jeudi. Les accouchements rapides avaient pris par surprise non seulement la mère, mais aussi le personnel médical. Le médecin a été vite. Il a été chanceux d'attraper Élodie parce qu'elle est sortie extrêmement vite, avait réagi Mme Doris peu de temps après l'arrivée au monde des jumelles. Emmanuel et Élodie sont en pleine santé, a fait savoir leur mère. Ça pète le feu, ces deux petites-là. Ça déplace de l'air, a indiqué en riant Amanda Doris, qui retournera travailler au gouvernement fédéral sous peu. L'ancien record remonte à juillet 2013, lorsqu'une Californienne avait donné naissance à des jumeaux en une minute. Alors, on a parlé de naissance et maintenant, je vous parle de mort, puisque l'abbé Jolicoeur décède dans la sérénité. On apprend cette triste nouvelle dans la tribune. L'abbé Sherbrookois, bien connu Robert Jolicoeur, s'est éteint jeudi après-midi à l'unité des soins palliatifs du pavillon Hôtel-Dieu du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Âgé de 69 ans, il souffrait d'un cancer qu'il a combattu avec courage, affirme l'archidiocèse de Sherbrooke dans un communiqué. Annonçant sa mort. Tout au long des étapes de la maladie, il a été entouré de ses proches qui ont veillé sur lui. Je vous invite tous à le porter dans vos prières. En ce moment de tristesse, nos pensées accompagnent la famille, les amis et toutes les personnes pour qui sa présence aura été source d'inspiration. L'abbé Jolicoeur a longtemps participé à l'émission La victoire de l'amour sur les ondes de TVA. L'animateur Sylvain Charron perd son confident. Actuellement en voyage, Sylvain Charron n'a pas eu l'occasion de revoir son ami face à face. Il m'avait dit qu'il voulait absolument me revoir avant qu'il parte. L'abbé Jolicoeur n'était pas effrayé par la mort. Il était prêt, assure M. Charron. Personne n'était surpris lorsque Robert Jolicoeur passait les portes du stade Amédée-Roy pour y voir une partie des expos de Sherbrooke. Le propriétaire de l'équipe, François Lécuyer, allait lui porter ses billets de saison en main propre. Il venait régulièrement, il était moins présent dans les dernières années, mais il adorait ça. L'abbé Jolicoeur était prêt depuis 1976, il a œuvré dans différents milieux. À Sherbrooke, il a été curé de la paroisse Saint-Charles-Garnier de 1987 à 1999 et de la paroisse Saint-Roch de 2002 à 2014. Il avait un charisme très particulier, rappelle son collègue Donald Thompson. Une amitié de longue date unissait les prêtres, Robert Jolicoeur et Donald Thompson. Le curé Thompson venait tout juste d'apprendre la mort de Robert Jolicoeur. Il avait de savoureuses anecdotes à raconter à son sujet. La mort de Robert, c'est une perte. Il avait un charisme, c'était un homme à la fois direct et très rassembleur. Il était capable d'actualiser l'Évangile de façon pertinente. Dans une famille, les enfants sont tous différents d'habitude et lui-même l'était tout à fait. Donald Thompson reconnaît que l'approche de Robert Jolicoeur l'a inspiré. Sa façon très conviviale d'approcher les gens et la manière qu'il utilisait pour entrer en contact avec les personnes dans la marge était inspirante, dit-il. Et dans le soleil, Élisabeth Fleury, pétition de 15 000 noms pour un traitement contre une maladie rare. Une pétition de pas moins de 15 000 signatures réclamant la couverture publique d'un coûteux médicament pour les personnes atteintes d'amyotrophie spinale a été déposée jeudi à l'Assemblée nationale. Accompagné d'enfants atteints d'amyotrophie spinale et de leurs parents, le député de Saint-Jean est porte-parole de l'opposition officielle pour les dossiers touchant les médicaments, Dave Turcotte a demandé en conférence de presse que soit revue la décision de ne pas rembourser le Spinraza, un médicament offert dans plusieurs pays et dont l'efficacité et les bénéfices sont reconnus. L'amyotrophie spinale, qui touche environ 250 personnes au Québec, est une maladie dégénérative qui attaque les muscles. Le Spinraza améliorait les capacités motrices et respiratoires des personnes atteintes, en plus de réduire la progression de la maladie, a-t-on souligné jeudi. Le problème, c'est que le médicament est excessivement coûteux. Dans un rapport publié en décembre, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INES, calcule que l'impact budgétaire net de l'inscription de ce médicament serait au cours des trois prochaines années d'environ 9,3 millions sur le budget des établissements. Dans une perspective de justice distributive, son remboursement ne constitue pas une décision responsable, juste et équitable, compte tenu des prix soumis par le fabricant à trancher l'INES. Dave Turcotte demande au ministre de la Santé Gaétan Barrette d'intervenir auprès de la compagnie produisant le Spinraza afin qu'elle diminue ses prix et d'agir rapidement, car plus le traitement est administré tôt, plus les capacités motrices et respiratoires sont préservées. Disparition de Mélissa Blais, récompense offerte. C'est dans le Nouvelliste, Martin Lafrenière. La Sûreté du Québec accentue sa quête d'informations auprès des citoyens concernant la disparition de Mélissa Blais. Non seulement la police a tenu jeudi soir un poste de commandement à Louisville pour inciter les gens à fournir de nouvelles informations, elle a demandé et obtenu de Jeunesse au soleil l'offre d'une récompense allant jusqu'à 5 000 pour toute information permettant de retrouver cette femme de 34 ans. Alex Vidal, superviseur du programme d'aide aux victimes d'actes criminels et de récompenses au département de prévention du crime de Jeunesse au soleil, indique que l'organisme a un protocole d'entente avec différents corps policiers pour évaluer de telles demandes. C'est dans ce cadre que Jeunesse au soleil a traité le dossier de Mélissa Blais. L'idée de la récompense est à la demande des enquêteurs responsables pour voir si on peut faire avancer le dossier. Le sergent Hugo Fournier, porte-parole de la SQ, confirme que cette requête auprès de Jeunesse au soleil provient de la police provinciale. Selon M. Fournier, la SQ fait rarement ce genre de demande. Cette décision ne veut pas nécessairement dire que la police se retrouve devant un cul-de-sac au niveau de l'enquête. On a rencontré une trentaine de personnes, on a des démarches d'enquête, mais on n'a toujours pas trouvé madame après 3 mois. Hélène Denis qui vous souhaite un agréable vendredi en ce 9 février 2018. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens, à venir les actualités culturelles et le segment Sujet libre.
J'ai tellement attendu, ça m'a rendu malade. Alors aujourd'hui, dans mon lit, ce jour sans fin suffit. Je n'ai jamais vu un soir qui soit aussi close to me. Seulement que ça marche, sentir la peur avant que tu viennes. Danser avec ton ombre, tout près. Ouvre les yeux et je tiens mon souffle. Ouais, j'en tremble. Si j'avais ta confiance, alors ce serait sans danger. Si seulement j'étais sûr, ma tête sur ce mur, un rêve.
Peut-être l'avez-vous reconnu, c'était M qui revisitait un classique du groupe The Cure, Close to Me.
Actualité culturelle dans le cahier art et spectacle du Journal de Montréal. Aujourd'hui, on pose la question, les Québécois seront-ils au poste? Beaucoup d'incertitudes entourent les codes d'écoute des JO d'hiver. Marc-André Lemieux qui s'est penché sur la question. Selon les estimations d'auditoire officielles, la cérémonie d'ouverture devrait rallier 430 000 téléspectateurs en direct, une baisse de 40 % par rapport à ce CHI. On attribue ce fléchissement au décalage horaire plus prononcé avec Pyeongchang, 14 heures comparativement à 8 heures avec Sochi, qui oblige Radio-Canada et RDS à retransmettre cet événement de 5h30 à 8h du matin. La rediffusion prévue à 18h30 devrait mieux faire avec 786 000 téléspectateurs d'après les prévisions. Les estimations concernant la cérémonie de clôture sont semblables. Une baisse de 40 % est anticipée. C'est en soirée que Radio-Canada devrait faire le plein de téléspectateurs, puisqu'elle proposera au cours des deux prochaines semaines des compétitions en direct, patinage artistique, ski alpin, ski acrobatique, chose qu'elle n'avait pas pu faire en 2014. De son côté, la programmation de jour, qui regroupera les meilleurs moments des épreuves présentées en direct la nuit précédente, devrait rejoindre en moyenne 300 62 000 amateurs, soit 85 % des auditoires de Sotchi. L'agence de publicité Cosette Media qualifie toutefois ses prévisions de conservatrices. Décalage horaire ou non, les JO, les Jeux olympiques, demeurent un attrait. Selon Cosette Media, le carnet de commanditaires de Radio-Canada affiche complet jusqu'au 26 février. Durant cette période, la société d'État devrait voir ses parts de marché grimper, tout comme celle de RDS, l'autre diffuseur officiel. L'absence des joueurs étoiles du circuit Batman, la LNH a décidé de faire l'impasse sur Pyeongchang, pourrait cependant miner les auditoires du tournoi de hockey olympique, l'épreuve préférée des Québécois. À Sotchi, la finale masculine de hockey avait permis à ICI Radio-Canada d'enregistrer un sommet d'écoute avec 2 millions de téléspectateurs. CBC Radio-Canada refuse de divulguer le montant qu'elle a déboursé pour présenter les JO de Pyeongchang. On parle d'une somme importante, juste puisqu'en 2014, année des derniers Jeux d'hiver, les dépenses du diffuseur public en sport s'élevaient à 258 millions, alors qu'en 2015, elles retombaient à 35,9 millions selon les données du CRTC. Notons toutefois qu'en 2014, CBC Radio-Canada avait également diffusé la Coupe du monde de soccer, une autre propriété sportive onéreuse. Malgré tout, CBC Radio-Canada avait fait ses frais lors des JO de 2014, respectant ainsi la parole d'Hubert Lacroix, son directeur général qui s'était engagé à être financièrement responsable. Au total, 295 employés de CBC Radio-Canada passent les Jeux en Corée du Sud ce mois-ci. À Montréal, 150 autres sont mobilisés. La majorité du travail de production se fait à Montréal et Toronto, indique François Messier, directeur général production et sport des services français de Radio-Canada. Depuis quelques années, on fait tout le montage ici. Ça réduit considérablement la taille des équipes qu'on envoie sur place, comparativement aux Jeux de Pékin et Turin. Quelques suggestions sorties, prises dans, entre autres, le cahier Week-end du Devoir. Science au féminin, dans le cadre de la Journée internationale des femmes et des filles de science des Nations unies. Le Centre des sciences de Montréal organise la journée thématique Science au féminin, visant à encourager la participation des femmes à cette vaste discipline. Ce sera l'occasion de rencontrer des femmes œuvrant dans le domaine et de participer à des animations interactives. Dimanche, de 10h à 16h, aux 2 rue de la Commune Ouest, gratuit pour les femmes de 18 ans et moins, sinon 15 $. Chaque année, la fête des semences annonce la venue prochaine du printemps puis de l'été, saison heureuse des jardins. Pour les 3 prochains jours, une panoplie d'experts en semences et en pousses de toutes sortes sont réunis au Jardin botanique de Montréal pour partager leur savoir. Vous souhaitez cultiver des champignons, connaître les plantes anciennes, comprendre la germination. Des ateliers et des conférences vous faciliteront la chose. Il y aura de quoi refaire vos stocks avec des produits locaux et bio. C'est aujourd'hui, de midi à 17h, demain et dimanche, de 9h à 17h, au 4101 rue Sherbrooke-Est, entrée libre. Avec ses propositions en cinéma, en musique et en gastronomie, le Festival Nomade rapproche pour une 8e année les cultures qui se côtoient à Montréal. Lancé mercredi, il se poursuit ce vendredi avec le spectacle « Les réfugiés des nomades forcés » qui mêlera musique, contes, poèmes et témoignages et jusqu'à dimanche avec entre autres un souk nomade et une projection de film sur le nomadisme dans le cinéma québécois des années 60 à 80. jusqu'à dimanche au Dépanneur Café, à la Caïma et à Montréal, Arts interculturels. En ce mois de l'histoire des Noirs, les voix de la diversité ayant inspiré nos modernes résonneront à la Maison de la littérature avec le spectacle Black Black, qui réunira entre autres Quinca, Franz Benjamin et René Saint-Éloi, dans une lecture plurielle avec musique inspirée des mots de Maya Angelou, Nina Simone, Aimé Césaire, Léopold Senghor et Angela Davis notamment. C'est aujourd'hui à 20h au 40 rue Saint-Anislas, c'est à Québec. L'Opéra de Montréal a annoncé jeudi un projet associant Michel-Marc Bouchard et le compositeur Julien Bilodeau. Michel-Marc Bouchard, qui est l'auteur, entre autres, de Les Feluettes, et Julien Bilodeau, Another Brick in the Wall, en tout cas, il l'a porté à l'Opéra, cette œuvre de Pink Floyd. Le nouvel opéra intitulé La beauté du monde sera créé au printemps 2021. L'action posera la question de la protection des œuvres d'art à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale dans le milieu muséal. Profondément troublé par le récent affront causé au site archéologique de Palmyre par le saccage du musée de Mossoul en Irak et par la destruction d'œuvres majeures de l'art byzantin et mésopotamien au Moyen-Orient, Michel-Marc Bouchard a décidé d'écrire cet opéra afin de rappeler l'importance des œuvres d'art dans nos vies, de leur accessibilité et de leur protection, nous indique l'Opéra de Montréal. Fanny Bloom lancera son troisième album « Liqueur » le 9 mars prochain. Le disque paraîtra une fois de plus sur l'étiquette « Grosse boîte ». Candide, coloré, rafraîchissant et surtout concocté sous le signe du plaisir, Liqueur déploie une pop québécoise sagace, habitée de légèreté et de sentiments heureux, mentionne le communiqué. Le disque a été co-réalisé par Fanny Bloom et ses anciens comparses de la Patère Rose, Thomas Hébert et Julien Arbeck. Karim Ouellette a prêté sa voix à la pièce « Nos cœurs ». Pour ouvrir les festivités de son 50e anniversaire, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec nous invite à sa journée porte ouverte samedi de 10h à 16h. À l'horaire, visite des lieux, conférences, ateliers, dégustations et rencontres de Sœur Angèle et de Bob le Chef. Aucune réservation n'est requise, tout est gratuit, www.ithq.qc.ca. Et je termine avec deux autres suggestions sorties. C'est dans l'agenda du week-end dans le Journal de Montréal. Jusqu'à dimanche, on pourra se rendre au Salon Expo Habitation du Stade olympique. Sur place, 600 exposants, 25 modèles de cuisine et salle de bain, 5 maisons à visiter. Horaire aujourd'hui et demain de 10 à 21h, dimanche de 10 à 17h. Coût d'entrée, 16 $ par adulte, 6 $50 pour les enfants de 6 à 12 ans. Cherchez aussi l'onglet concours sur le site, il y en a plusieurs. www.expohabitation.ca. Et finalement, Napoléon à Montréal, la nouvelle exposition du Musée des beaux-arts de Montréal, Napoléon, art et vie de cour au Palais impérial, est présentée jusqu'au 6 mai. On peut y ressentir l'ambiance somptueuse de la cour de Napoléon de 1804, année de son couronnement, à 1815, année de son exil. L'exposition rassemble plus de 400 œuvres provenant de diverses collections muséales et de certains objets que Ben Wither a offerts au musée. www.mbam.qc.ca.
Sortie de ma mère, les infirmières craquaient pour moi. Et dans la pouponnière, toutes les filles étaient en émoi. Je crée la sensation, je suis né comme ça, j'y peux rien. Je suis la perfection, le mec plus ultra masculin. Je suis la perfection, je le redis, que ce soit clair. L'ultime création, sans mauvais pli, j'ai tout pour plaire. Je fais bien des jaloux, on m'envie mes nombreux talents. Les femmes sont à mes genoux, je suis gentil, homme et charmant. J'ai tout de sensualité, de charme et d'ingéniosité. Je sais que ça peut paraître odieux, mais c'est comme ça que m'a voulu Dieu. Culturé, bien élevé, propre et proportionné. Je suis le fils qu'espèrent avoir tous les parents. Culturé, bien élevé, propre et proportionné. L'homme dont toutes les femmes rêvent, un fabuleux amant. On m'adore, on m'idolâtre, on me respecte. Pas seulement pour mon corps, mais bien sûr aussi pour ma tête. Je crée des commotions, j'inspire les envies les plus folles. Je soulève les passions, je rends les rigides frivoles. Mes frères ont des sales gueules, mes sœurs ont l'air de boules de quille. Je relève à moi seul la valeur de toute ma famille. Le contraste est si grand que la rumeur est unanime. On accuse mes parents d'avoir un fils illégitime. Je sais, j'ai l'air égocentrique. Oui, mais chez moi, c'est génétique. Le jour où l'on clonera des hommes, je pourrai partager ma personne. Culturé, bien élevé, propre et proportionné. Je suis le fils qu'espèrent avoir tous les parents. Culturé, bien élevé, propre et proportionné. L'homme dont toutes les femmes rêvent, un fabuleux amant. Oh! Parfait, mais parfois c'est lourd à porter. Ça m'écrase en effet tous ces excès de qualité. Je cultive l'impression que tout un chacun me déteste. Car à la conclusion, les gens préfèrent les gens modestes. Alors je m'imagine être petit, moche et crétin. Devenir anonyme, avoir un médiocre destin. Mais cette idée m'effraie, du coup je redeviens moi-même. Prétentieux, oui c'est vrai, oui mais bon, c'est mon seul problème. J'accepte avec humilité ces talents que Dieu m'apprête. C'est mon fardeau, c'est ma pitance que de vivre avec mon excellence. Culturé, bien élevé, propre et proportionné. Je suis le fils qu'espère avoir tous les parents. Culturé, bien élevé, propre et proportionné. L'homme dont toutes les femmes rêvent, un fabuleux amant. Culturé, bien élevé, propre et proportionné. Je suis le fils qu'espère avoir toutes les mamans. Culturé, bien élevé, propre et proportionné. L'homme dont toutes les femmes rêvent, je suis un fabuleux amant.
Ah, le groupe Paul-Émile Bazard, culturé, bien élevé.
Pyeongchang 2018, la chronique d'Yves Boisvert intitulée « Une pas de vie d'élève à Séoul ». Une, entre parenthèses, pas de vie d'élève à Séoul. Alors, ça donne une pas de vie d'élève à Séoul. Le soir, très tard, les bus jaunes d'écoliers recommencent à circuler dans les rues de Gangnam. Ils ramènent les élèves du secondaire, mais aussi des gamins de 8-9 ans qui sortent d'une séance de cours du soir dans une des académies. Le gouvernement a donné qu'elle ferme à 22 heures, mais j'ai des amis qui restent jusqu'à 23 heures, minuit. Après, tu rentres, tu manges, tu prends une douche très vite et il est 1h30. Le lendemain, tu te lèves à 6h30, le temps de te préparer vu que l'école, la vraie, commence à 8 heures. Nous sommes attablés dans un café du village français de Séoul entre deux boulangeries artisanales. Ji Wong Lim entre dans l'année secondaire terminale comme on entre dans un long tunnel. En une seule journée, au mois de novembre, il passera une demi-douzaine d'épreuves, toutes avec questions à choix multiples, en maths comme en langue coréenne. Selon sa note, il saura à quelle université il pourra accéder. Et si tu échoues, tu refais ta terminale et repasses l'examen l'année suivante. Il n'y a qu'une journée par année. Mais en fait, personne n'échoue. Même avec 1 sur 20, on peut aller à l'université. Mais une université de campagne que personne ne connaît. Ce qui se passe, c'est que les gens refont l'examen pour avoir une meilleure note. De plus en plus le font. Ils refont une année d'études pour avoir la note parfaite et aller dans les meilleures universités. Or, pour avoir 20 sur 20, aller à l'école de 8 à 4 et étudier le soir, ça ne suffit pas, vous dira-t-on. Pour bien se préparer, il faut passer par les académies. À 16 heures, donc, après une heure pour jouer, les enfants et les ados qui y sont inscrits se farcissent 2 heures de ces cours privés. Ils bouffent vers 19 heures et hop, c'est reparti pour toute la soirée après souper. Dans ma classe, je suis dans la minorité qui ne va pas à l'académie. La plupart des élèves à Séoul s'y rendent. Comment tu te prépares? J'étudie par moi-même. Tu étudies chez toi donc? Ah non, je suis les cours en ligne d'une académie. Je vais dans une bibliothèque, c'est ouvert jusqu'à 2 heures du matin et je le fais à mon rythme. Beaucoup plus relax, en effet. Point de suspension. Au tableau en classe, dans ce lycée public, le compte à rebours a commencé. Chaque jour, le prof ajuste le nombre de jours avant l'épreuve finale. 317, 316. À plus de 300, ça allait, mais là, on est à 280 quelque chose. Ça commence à stresser, me dit-il avec un sourire nerveux entre 2 gorgées de thé glacé. L'année scolaire commence le 1er mars en Corée. Et nous sommes en plein milieu des grandes vacances d'hiver. L'école ne fait relâche que 3 semaines en juillet, mais 2 mois en janvier et février. Les lycéens coréens, ou du moins leurs parents, se font des vacances une idée bien différente. C'est pas parce que l'école est fermée qu'il faut se la couler douce. Au contraire, il faut profiter de l'absence d'école pour étudier un peu plus. Mes amis vont dans des camps. Tout le mois de janvier, ils étaient au camp. J'imaginais une sorte de camp de vacances à la campagne avec sport d'hiver. C'est pas tout à fait le concept. C'est encore l'académie, mais ils couchent là. Ils ont des cours de 8 heures à 22 heures, 7 jours sur 7. Et toi, pendant tes vacances? Moi, je me lève plus tard vers 9 heures et j'étudie environ 8 heures. Il dit ça comme en avouant une paresse coupable. C'est vraiment pas beaucoup en Corée. Dans ma classe, le matin, tout le monde dort. Pas tout le monde, bon, disons plein de gens. Mais vraiment dormir. Les profs essaient de les réveiller et au bout d'un moment, ils les laissent. Ils savent qu'ils se sont couchés à 2 heures. En même temps, ceux qui dorment, c'est souvent les meilleurs élèves, ceux qui travaillent le plus fort. Ils sont crevés. Tu penses quoi de tout ça? J'aime pas ce système. Personne n'aime ça. Mais tout le monde le fait, alors ça devient normal. On n'y peut rien. Et les Coréens se disent, c'est grâce à ce système qu'on s'est développé. La 11e puissance économique mondiale affiche un taux de réussite aux études secondaires de 97 % et une diplomation universitaire dans le haut des pays de l'OCDE. Pour moi, c'est un jeu tout ça, un cercle vicieux. Ils ne font que jouer à être à l'école. Ceux qui ont bossé toute la soirée et la nuit, ils n'écoutent pas en classe. Ça ne fait rien. Ils revoient la matière en détail dans les académies. Mais plus ils travaillent aux académies, moins ils écoutent en classe, vous voyez? Ce n'est que mon opinion, mais l'argent que les parents mettent dans les académies, c'est l'équivalent du budget du ministère de l'Éducation. Ils mettent une fortune. Jiwong Lim, c'est ce qu'il dit. Combien? Tout dépend, parce qu'en matière d'académie, comme dans tout le reste, il y a des classements. Ce sont des business, des brands, les plus grosses comme Megastudy et Ethos, font de la publicité partout. Leurs profs sont des stars et sont très, très bien payés. Plusieurs centaines de milliers de dollars par année. On voit leurs photos, les gens les connaissent, même s'ils ne sont pas étudiants, ils passent à la télé. Dans le quartier d'Aeshidong, les meilleures académies du pays sont toutes regroupées. Il y en a qui ont des édifices de 20 étages. Les parents pensent qu'avec ces profs vedettes, leurs enfants auront toutes les chances de leur côté. Souvent, mais c'est juste mon point de vue, ça sert seulement à forcer l'élève à travailler. Il y a des surveillants dans les rangées derrière tout le monde. Tout est très encadré. Ils n'ont pas de vie privée. Ils n'ont pas de vie. Et le sport? Pas le temps pour le sport, évidemment, ni les arts. Ceux qui font du sport, ceux qui font des arts, ils sont dans des écoles à part et eux aussi ne font que ça. La Corée ne veut que des personnes parfaites. Dans de rares moments libres, ils voient des amis. Et toi, tu veux faire quoi? Je ne sais pas encore, je suis en L pour lettres par opposition à S pour sciences. Comme j'ai appris le français dans un lycée en Afrique quand ma famille était au Nigeria, j'aimerais m'en servir. Le problème, c'est qu'à cause de ça, mon coréen est bof. Il y aura aussi, d'ici quelques années, les 21 mois de service militaire obligatoire. Mais en attendant, c'est la préparation. Il est à 3 ou 4 sur l'échelle de 1 à 9 où sont classés tous les élèves selon leurs résultats aux examens trimestriels. Ça me fait de plus en plus peur, avoue-t-il. J'en connais qui se préparent pour l'examen terminal depuis 2 ans. Le système est une machine à donner des notes, mais ce n'est pas avec une note qu'on peut dire si une personne est bonne ou mauvaise. Tu as quel âge? Il hésite. Ça dépend, 17, mais 19 en coréen. En Corée, comme dans bien des pays d'Asie, on a coutume de dire qu'on est à 1 an, même si légalement, on est à 0. Remarquez, avec ses heures d'études, il peut bien ajouter 3-4 ans. Je le quitte en lui souhaitant bonne chance et en le remerciant. Je sais, c'est les vacances, mais tout ce temps à prendre un thé glacé avec un étranger pendant que les copains font de la physique. J'apprécie. C'est donc la chronique des voies vertes en direct de Pyeongchang 2018, une pas de vie d'élèves à Séoul. Eh bien, c'est le temps pour moi de vous souhaiter une agréable fin de semaine. Paraît-il qu'il va neiger, surtout dimanche. Alors, si vous avez à sortir, soyez prudent, mais sinon, amusez-vous bien aussi, hein, parce que la neige, c'est aussi l'équivalent de plaisir, il ne faut pas l'oublier. Merci, Mathieu Tessier, celui qui aime l'hiver et qui a une plante prénommée Huguette. Merci à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute. Encore une fois, bon week-end et à lundi.